país asiático oriental. Je refuse totalement cette
étude. Moi, des films de compagnie au cas d'engage, je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. La dynamique chrétienne pour l'unité et le développement des CUD, une plateforme réunissant partis politiques et ONG, s'oppose aux éventuelles poursuites judiciaires contre les anciens présidents de la RDC. Ceci selon la CUD pour éviter qu'ils ne s'accrochent au pouvoir. Certains observateurs estiment qu'il faudrait engager les poursuites contre les anciens présidents si la justice l'estime nécessaire. Une autre opinion pense plutôt que les anciens présidents peuvent jouir des immunités que prévoit la Constitution. Quel est alors votre avis? En direct, vous pouvez participer à ces débats au 081-890-6315. Vous avez également la possibilité de commenter ce sujet sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel pa@radiocapi.net. Jean-Noël Mokondo est à la technique. Julie Pézabongonda sur l'interface téléphonique avec les auditeurs. Pierrot et la Mégie est à la réalisation de ce programme coordonné présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulama. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, nous nous excusons pour ces désagréments techniques. Le sujet qui a été publié sur notre page Facebook, nous l'ont rappelé certains auditeurs. Il s'agit là donc d'une thématique qui a été déjà débattue avant. Donc, vous avez compris que nous parlons aujourd'hui de cette dynamique chrétienne pour l'unité et le développement. Une plateforme réunissant partis politiques et qui, en fait, plaide pour la non-poursuite des anciens présidents si la justice l'estime nécessaire. Voilà. Nous allons ouvrir les débats avec vous, Franck. Vous êtes à Kinshasa, maître Sonville à Lubumbashi, en attendant l'arrivée dans ce studio de notre invité qui est le coordonnateur international de cette dynamique. Alors, Franck, vous êtes à Kinshasa cette fois-ci. Et voilà, bonjour Franck.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à toute l'équipe de paix, à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Voilà, depuis la semaine dernière, vous n'êtes pas à Vienne, vous êtes plutôt à RDC. Et en ce moment, vous êtes en séjour dans le Bandundu. Comment réagissez-vous par rapport à cette thématique?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je crois que la dynamique chrétienne a objecté par rapport à une réalité qui nous est connue. Mais c'est pas toujours facile de trancher par oui ou non, parce que ça peut dépendre de certains paramètres. C'est vrai que si nous devons seulement nous atteler à la teneur de leur objection, ils peuvent avoir raison. Et on dirait ils ont raison, mais seulement c'est pas une situation qui peut toujours se répéter par rapport à tous les présidents qui vont se succéder. Mais seulement si on laisse aussi la situation comme ça, sans tenir compte de certains privilèges qu'on pourrait accorder à certains présidents, ceux qui sont déjà au pouvoir auront aussi de la peine à partir parce qu'ils savent que si maintenant je dois partir, je serai poursuivi d'une manière ou d'une autre. Alors moi, personnellement, je trouve qu'il faut encore travailler sur le projet de la loi sur les immunités qu'on accorderait à certains sans toutefois laisser toutes les portes ouvertes, quoi, que chacun des présidents pouvait passer, se permettre ce qu'il peut, et il bénéficierait de ces immunités-là. Donc je crois qu'il y a encore lieu de travailler en amont et en aval pour qu'on ait une loi, mais pas une loi qui n'accorderait que des privilèges, sans donner pour autant de limites aussi pour sanctionner, quoi, au cas où il y avait vraiment des dérives qu'on ne peut jamais tolérer.
Voilà, donc si je comprends bien, il y a l'imminence à accorder à l'examen donc de la loi portant au statut des anciens présidents, comme nous l'avons tous suivi à la rentrée parlementaire au niveau du Sénat. Cette loi a été retenue comme matière à examiner au cours de cette session, parmi des matières donc qui seront traitées en priorité. Voilà, donc pour vous, vous insistez également sur non seulement les privilèges qu'on doit accordé à ses anciens présidents, mais aussi à quelques limites là où peut-être les sanctions pourraient intervenir si c'est nécessaire, comme l'ont dit certains prédécesseurs, certains observateurs qui estiment que voilà, il faudrait engager des poursuites contre les anciens présidents si la justice l'estime nécessaire. Donc déjà en amont, il faudrait qu'au niveau de cette loi, tout soit clair pour éviter quelques confusions ou quelques interprétations erronées. Merci beaucoup Franck d'avoir appelé de Bandundu, là où vous séjournez maintenant. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Maître Sonville.
Bonjour Maître J.R., bonjour à tous les millions d'auditeurs de la Radio Pacifique.
Vous avez la parole, quel est votre point de vue? Vous avez suivi Franck qui a parlé certes des privilèges qu'on doit accorder à ses anciens présidents, mais il faut penser aussi aux sanctions dans les cas échéants.
Oui, Monsieur J.R., vous savez que si notre pays ne va pas de l'avant, c'est à cause de l'impunité. Et vous voyez, vous allez vivre, par exemple, dans toute l'Afrique francophone, peut-être, si je ne m'abuse pas, pour que le président en exercice puisse céder le pouvoir, c'est tout un problème, puisqu'il va de mal gérer au moment où il était aux affaires. Moi, j'estime que pour persuader les autres candidats à la présidence qui viendront peut-être pour gérer ce pays, il faudrait qu'il y ait des poursuites judiciaires après le mandat. Pourquoi je dis ça? Cela va un peu demander à ce que tout celui qui vient au pouvoir puisse rendre compte à la population et par sa gestion pour que ce pays puisse aller de l'avant. Et d'ailleurs, Monsieur Gilles, je voudrais que, d'après le président actuel en fonction aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et les juges pénales du président Joseph Kabila, il y a même des infractions qui sont même prévues, des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur et à l'autorité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions du droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Elle est également compétente pour juger leur co-auteur et complice. Dans le cas de Steps, les anciens présidents sont des co-auteurs. Or, du moment où ils géraient un président et les quatre vice-présidents, il y a eu de ma vue. Il y a eu des griefs qui pouvaient être retenus à leur charge. Et le pays a perdu beaucoup d'argent juste suite à la gestion. Il y a eu un comportement déplorable dans le chef de certains vice-présidents. Mais ce n'est pas pour cela, parce qu'ils ont été vice-présidents et qu'ils puissent bénéficier de tous les privilèges. Et peut-être qu'on peut se passer des privilèges, des infractions de droit commun, pas les infractions qui ont mis le pays en déroute, qui ont mis le pays peut-être dans une dérive quelconque. Aujourd'hui, vous comprendrez avec moi aussi, hier. Pourquoi aujourd'hui Jean-Pierre Bemba est poursuivi au niveau de la Cour pénale internationale? Parlons maintenant le cas du Brice de Kosa, du Sénabré. C'est tout ce que leur juridiction au niveau de leur pays n'ont pas pu mettre la main sur ce dirigeant-là. Et voilà que la Cour pénale internationale, à qui revient toutes les prérogatives possibles, s'est saisie du dossier pour rester un peu, éclairer leur antenne publique. Et c'est un peu de grand injugement conséquent par rapport aux actes commis. C'est-à-dire que ça ne peut pas même se limiter au niveau des vice-présidents ou des présidents. On doit aussi poursuivre les ministres. Il y a même des ministres qui sont en fonction. J'ai quand même dit qu'il y a des ministres qui sont obligés de remettre de l'argent, mais qui sont en fonction. Ces ministres-là, après leur fonction, ils doivent être poursuivis. C'est-à-dire que nous devons combattre l'impunité à tous les niveaux, en commençant par la base jusqu'au sommet. À ce moment-là, cela va demander à ce que ceux-là qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, même ceux-là qui viendront demain, pour se respecter la population, qui peut travailler pour l'honneur de la République démocratique.
Voilà. Merci beaucoup.
Nous pouvons dire, par exemple, au niveau même des administrateurs des entreprises publiques, des entreprises de l'État, il y a de la mangouille. Mais si on y va avec beaucoup de sérénité pour entrevoir un avenir radieux de la vie démocratique du Congo, il faut que tous ces gens-là soient poursuivis à tous les niveaux, même les magistrats, ils doivent être poursuivis. C'est-à-dire que tout le monde, à quelque niveau qu'il soit, pour que le pays aille de l'avant, il faudrait que cet arsenal juridique puisse marcher en conformité avec la loi.
Voilà, donc la loi est imposable à tous, donc je crois que nul n'est au-dessus de la loi, comme le disent les hommes du droit. Je crois que c'est vrai, il y a également ce que nous appelons l'erreur commune qui fait les droits, mais je crois que nous ne devons pas nous verser chaque fois dans les cas d'impunité, comme vous l'avez insisté, et surtout que quand on a la charge publique, on est rédévable devant cette population. Il faudrait qu'on puisse cultiver cette notion de rédévabilité. pour en fait fixer l'opinion tant nationale qu'internationale. Mais dans le cas échéant, vous insistez sur la poursuite judiciaire de tout le monde, de la base au sommet. Et je crois que ça pourrait servir d'exemple. Au lieu chaque fois de rester, comme l'a dit Franck, à accorder des privilèges, mais il faut penser aussi à sanctionner pour servir des modèles afin que nous tendons vers un pays des droits réellement. Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé. Kelly, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Kelly.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Pratique.
Vous avez la parole.
Oui, Pierre. Moi, je m'inscris en faux, ou bien je ne partage pas le point de vue de cette dynamique, parce que je constate qu'en voulant accorder des privilèges au certain président, et en refusant le fait que ces présidents-là, s'ils ont mal dirigé, qu'ils soient poursuivis par la justice, je pense que c'est consacrer l'impunité. Alors que nous avons constaté que notre pays, si ça ne marche pas vraiment comme dans certains pays démocratiques, c'est parce qu'on consacre l'impunité. Quand est-ce qu'un président peut être poursuivi? C'est lorsqu'il dirige mal, lorsqu'il coule sous ses pieds les prescriptions de la Constitution, puisqu'on dit qu'il faut respecter les droits de l'homme, il faut respecter les textes. Et quand un chef d'État, lorsqu'il accède au pouvoir, il bafoue ses prescriptions, et c'est normal qu'il soit poursuivi. Moi, je pense que cette dynamique n'a pas raison à mon humble avis. Je ne partage pas ce point de vue. En tout cas, les présidents qui dirigent mal doivent être poursuivis. Les privilèges, oui. Si c'est pour préserver une certaine quiétude, une certaine paix dans le pays, je pense que je pourrais accepter un tout petit peu, mais vu que nous sommes en train de chercher à combattre l'impunité, je pense que cette loi, cette proposition ne doit pas être acceptée.
Oui, parce que les autres insistent sur le caractère apaisé de ce processus de démocratisation du pays, par exemple pour la RDC. Il faudrait réellement tenter cette expérience en accordant les privilèges aux anciens présidents.
Ben oui, Gérald. Bon, si aujourd'hui on tolérait cette proposition, si on acceptait cette proposition de cette dynamique, qu'est-ce que nous dirons à des autres présidents qui viendront après? Ils verront que, bon, voilà, avant moi, il y a eu un tel président qui a commis des bavures sous le plan juridique, il a violé des droits de l'homme, mais il est là, il a des privilèges. Alors, ce serait un exemple pour eux. On devait donner prêté par exemple. Celui qui commet des erreurs, le pouvoir qui n'est pas poursuivi, alors je pense que les autres qui le suivront après vont toujours continuer cette même lancée. Et ce n'est pas bien, ça va toujours consacrer l'impunité à la dernière année. Alors voilà pourquoi je propose que cette proposition ne soit pas mise en compte.
Merci beaucoup, Kelly. Vous partagez le même avis que les autres, vos prédécesseurs, qui parlent des privilèges, oui, mais avec quelques limites. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà, d'autant plus que la loi est là, donc personne n'est censé ignorer la loi, et personne ne peut violer cette loi qui, en fait, qui régule la vie au quotidien d'une nation. Merci beaucoup, Kelly, d'avoir appelé de Kinshasa. Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, Matadi.
Vous avez la parole, Michel.
Oui, j'allais juste commenter en disant d'abord que cette dynamique doit d'abord comprendre que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, tous les citoyens ont le même droit. Donc nous devons d'abord comprendre que le président, ce n'est pas un homme extraordinaire. Non. Les mêmes droits que lui a, ce sont les mêmes droits que le président a vis-à-vis de la nation. Moi, je crois que avec cette pensée, nous risquons que nous fouchions appeler encore d'autres choses. Si vous prenez dans des pays qui se respectent, prenons par exemple aux États-Unis, après la remise et reprise des présidents, vous avez la sécurité des agents spéciaux qui est de 15 jours. Donc après 15 jours, vous devenez un citoyen normal, comme tout le monde. Donc les droits, c'est comme une ligne rouge. C'est seulement Dieu qui peut traverser. Personne d'autre ne peut traverser cette ligne. Donc nous tous, nous avons les mêmes droits. Donc s'il peut y arriver qu'un président puisse commettre des défis, c'est normal. C'est normal qu'il soit entendu, qu'il soit écouté par la justice. Et c'est ce qui se fait dans tous les pays qui se fait état de droit. Nous avons vu Sarkozy passer à la barre, nous avons vu François Mitterrand passer à la barre, donc c'est normal. Tout le monde est normal. Donc mieux que maintenant, il doit avoir les présidents, les anciens présidents, doivent avoir certains privilèges, ça c'est vraiment antidémocratique. Et je crois que nous faisons, si nous acceptons de tels arguments, je crois que nous n'allons même pas appeler le développement. Parce que lorsque les présidents seront convoqués. Et après un avis, il peut être attendu, je crois, à l'immunité qu'il puisse aller au-delà parfois de ce qu'ils font. Je vous en prie.
Merci beaucoup, Michel. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de la Plumbi sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, nous allons vous rappeler peut-être le contenu du mémorandum de cette plateforme à la classe politique congolaise. Quant à ce, il est dit dans son point D relatif au constat que la situation politique du pays est marquée par une impasse. Le calendrier électoral publié par la CENI n'a aucune chance d'être respecté à cause des nombreuses contraintes, dont celles financières et logistiques. Alors la nation est en quête d'une solution pouvant lui permettre de traverser sans casse l'épreuve de 2016, année de la fin du mandat constitutionnel de l'actuel président de la République. Alors, la DCUID exhorte les présidents de la République de concrétiser l'organisation du dialogue en mettant sur pied une commission préparatoire tripartite, majorité, opposition et société civile. La DCUID invite tous les acteurs, tant de la majorité présidentielle que de l'opposition et de la société civile, toutes tendances confondues, à faire montre d'ouverture d'esprit et des sens de responsabilité pour ne plus faire reculer cette opportunité de personnes peuvent-elles marcher ensemble sans en être convaincues, au préalable. Voilà, donc c'est cela le débat du jour. Faut-il ou non accorder des privilèges aux anciens présidents? Vous avez suivi les uns et les autres, donc en fait la première série a insisté sur les privilèges, oui, mais il faudrait aussi penser à sanctionner le cas où peut-être des gens doivent répondre devant la justice de leur fait. Voilà, nous allons prendre Philemon qui est en Boujimaï. Philemon, vous restez en ligne. Philemon, vous êtes avec nous? Voilà, plutôt, on prend d'abord l'invité qui nous a rejoint, qui est en ligne, Jean-Pierre Bouendoua, le Dougué, coordonnateur national. Jean-Pierre, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, M. J.R.
Voilà, d'entrée de jeu, quelle a été la motivation première de ces mémorandums que vous avez adressés à la classe politique congolaise?
D'abord, un rectificatif, c'est que ce que nous demandons là, nous le demandons pour l'actuel président de la République avec ceux qui lui sont proches. Ce n'est pas tous les présidents de la République qui viendront en RDC qui bénéficieront de cela. Donc, c'est compte tenu de la situation particulière que nous sommes en train de vivre et la nécessité de nous assurer d'un processus électoral démocratique et pacifique. Vous voyez que la tension est en train de monter du jour au jour. Il est important que nous puissions rassurer l'actuel président de la République. Cela est nécessaire puisque vous voyez, lorsque l'Afrique du Sud quittait de l'apartheid pour entrer dans l'ère démocratique, on a mis sur pied la commission Vérité et Réconciliation qui ont permis à ce que l'on puisse à peu près passer de l'éponge sur l'histoire de l'apartheid pour que finalement on commence une ère nouvelle. Voilà, c'est au-dessus, j'ai entendu mon frère parler, intervenir, je le comprends et c'est nécessaire qu'il dise ça, puisque ça c'est la voie de la raison. Mais la voie sur laquelle nous sommes, c'est la voie de la sagesse, qui exige à ce que maintenant nous trouvions des voies conciliantes de la paix en RDC. Voilà la première réaction que je peux faire à ce niveau.
Alors, entrant vos propos, que pensez-vous alors de ce principe qui dit que la loi doit être impersonnelle?
La loi est impersonnelle, pourquoi nous avons parlé d'un pacte politique qui est tout à fait particulier et qui se prendrait pour arriver à trouver la solution à ce problème dans lequel nous sommes maintenant. Donc ce n'est pas une situation.
Oui, parce que ce problème,
c'est par rapport à la situation.
Oui, qui est tout à fait partie. Jean-Pierre, mais ce problème peut encore revenir plus tard. C'est vrai, le président actuel ne sera pas le dernier ou celui qui viendra. Pourquoi ne pas faire une loi comme l'ont proposé certains députés et d'ailleurs, cette loi sera à l'examen au niveau du Sénat, la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut évoquer des privilèges et aussi des sanctions si c'est nécessaire.
Oui, cette loi-là, nous ne la touchons pas. Elle reste la proposition de la loi, elle reste ce qui sera accordé, les privilèges qui seront accordés à tout le monde. Mais par rapport à la situation présente, par rapport à tout ce que nous sommes tous en train de voir, nous voyons que nous avons besoin de trouver une solution qui nous amène finalement à la paix. Et cette paix doit passer par des élections qui ne seront pas contestées comme les élections de 2006, les élections de 2011. Nous devons user de notre intelligence et de notre sagesse pour trouver les garanties qu'on va accorder aux acteurs d'aujourd'hui afin que nous puissions finalement entrer dans l'ère purement démocratique. Nous ne pouvons pas comparer notre démocratie aujourd'hui avec celle des États-Unis. La démocratie a toute une histoire, elle a tout un parcours, elle a un chemin. C'est comme un enfant qui naît qui a besoin de mûrir. Donc, nous ne sommes pas encore, notre démocratie n'a pas encore l'âge de la démocratie américaine, française. Nous devons bâtir la nôtre. Pour la bâtir, la paix a un prix. Nous devons accepter de payer le prix de la paix. C'est ce que nous pensons avec, de manière tout à fait humble, c'est ce que nous pensons, nous croyons que c'est la voie de la sagesse au-delà de la raison. La raison existe que toute personne soit poursuivie pour tout ce qu'il a fait qui est contraire à la loi. Mais par rapport à la nécessité de bâtir la paix, nous devons trouver que à un moment donné, nous devons passer par un processus de réconciliation de paix. Nous avons besoin de la réconciliation nationale et qui va nous amener, quant à elle, à la paix. Et la paix va nous amener au développement. Et si on ne fait pas ça, on va poser des actes aujourd'hui qui vont être tapés par tout ce qui va venir. Voilà.
Alors, vous estimez que toute cette question pourrait être débattue au cours d'un dialogue?
Oui, exactement, puisqu'il faut un moment particulier pour débattre de ces questions et de trouver des solutions appropriées. Il faut des solutions appropriées à la situation d'aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens sont en train de bien suivre la situation, mais elle est très préoccupante, elle est tendue. Il ne faudrait pas que l'on connaisse encore des situations où nous allons faire une comptabilité macabre. Hein? Toute vie humaine a du prix. Nous nous disons qu'il y a plus à sauvegarder en RDC, c'est la vie des Congolais qu'il faut sauvegarder au-delà des textes que je respecte et que j'aime, mais la vie humaine est au-delà de ces textes-là. Jusqu'à ce que je sache, ces textes ont été faits pour garantir les biens, le mieux-être à la population congolaise. Lorsque l'on campe sur les textes au détriment des vies humaines, alors ces textes-là, il y a de quoi y regarder de près. Il faut trouver la sagesse qui nous amène à utiliser les textes effectivement appropriés pour une protection de la population.
Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des contradictions entre la loi telle qu'élaborée sera l'objet d'un examen au niveau du Sénat au cours de cette session et les points de vue qui seront dégagés au niveau du dialogue? Parce que dans le dialogue, c'est vrai, il y aura un peu de sentiment, il y aura un peu de la passion, bon, voilà. Mais là, il y a déjà une loi qui a été acceptée au niveau de l'Assemblée nationale, proposée par les députés, et puis aujourd'hui annoncée par le Sénat pour examen. Donc, je crois que pourquoi ne pas seulement tenir compte de ce que dispose cette loi pour en fait étendre votre débat.
La loi n'est pas encore rendue publique, elle n'est pas encore promulguée, elle est encore
projet, oui.
Sénat. Nous disions que à côté de cette loi-là, puisque cette loi-là va concerner, disons, elle parle de tous les chefs de l'État et le privilège qu'il faut les raccorder. Mais ce que nous le disons pour les présidents actuels par rapport aux réalités actuelles, puisque cette réalité, nous aussi, nous ne pouvons pas penser qu'elle va se perpétrer année après année. Vous allez vous rappeler que mercredi, lorsque j'intervenais sur vos antennes, j'ai bien dit que nous devons éviter de perpétrer un modèle de honte, le modèle de la RDC dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui nous montre que depuis 60, tous les chefs de l'État quittent le pouvoir par la guerre, par la force ou par l'assassinat, nous devons quitter ce modèle-là. Nous devons arriver à bâtir un modèle qui soit le modèle démocratique réellement. Et pour y arriver, nous devons accepter de payer le prix qu'il faut. Et c'est maintenant que nous devons le faire. Nous ne le disons pas puisque nous voulons, nous aimons Joseph Kabila ou voulons, je ne sais pas lui accorder quoi, mais compte tenu de la situation tendue, nous devons user de tout ce que nous avons comme facilité pour trouver des solutions.
Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre, nous vous gardons encore en ligne, mettant pour vous d'avancer. Nous prenons Philemon qui est à Mbujimayi, Olivier qui quitte. Philemon, bonjour.
Bonjour, c'est Clément Mbujimayi, Clément Mouya Mbujimayi.
Voilà, Clément, vous êtes Mbujimayi, vous avez la parole.
Merci beaucoup, JR. Je suis en train d'aller un peu en parallélisme avec l'intervenant de tout à l'heure, lui démontrer que nous ne sommes pas dans un siècle où nous devons être aussi flatteurs que le corbeau et le renard, parce que c'est un peu étonnant de trouver qu'une synergie ou une dynamique se mettant sur une table pour statuer et flatter un individu aujourd'hui où ils ont reçu mandat du président de la République pour qu'ils puissent parler en son nom et de montrer au peuple congolais combien eux aiment le président de la République. Mais alors que les Congolais ont les élus qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont déjà adopté une loi qui ne sera pas non seulement pour le président de la République actuelle, mais aussi pour les présidents qui viendront après le président actuel. Et cette loi n'est pas au niveau de l'Assemblée nationale, elle est déjà au niveau du Sénat. Une loi déjà au niveau du Sénat, il y a une synergie ou une dynamique qui se lève aujourd'hui pour aller aussi en contradiction, pour bien dire, par rapport à ce que le peuple congolais est en train de faire. Ne trouvez-vous pas que c'est déjà une flatterie? Est-ce qu'ont-ils reçu mandat du président de la République pour essayer un peu de le couvrir ou de tailler une veste à sa mesure aujourd'hui parce que nous tendons vers la fin de son mandat? Voilà un peu les questions que nous sommes en train de nous poser. Ces dynamiques sont issues d'où et reçues mandat de qui pour parler au nom de qui? Voilà un peu ce que toi, ça veut dire. Parce que le président, nous sommes sûrs et certains qu'il a fait un bon travail comme il l'a fait. Et il y a une loi cherchant à protéger les intérêts du président, comment le protéger après mandat. Bien sûr que nous ne pouvons pas nous comparer aux démocraties qui ont déjà des vieilles démocraties, parce que nous sommes une nouvelle démocratie. Bien sûr que nous sommes en train de nous adapter petit à petit, mais que de tailler une veste à la mesure d'une seule personne au détriment de toute la population. Voilà un peu ma petite réaction et ma petite
question. Voilà. Merci beaucoup Clément. Donc vous rejoignez ceux qui en fait soutiennent que la loi est impersonnelle, on ne doit pas créer, même s'il y a des privilèges à accorder, et il ne faudrait pas le faire uniquement pour le président actuel, mais il faut déjà penser et à lui et à ses successeurs éviter à ce qu'il y ait en fait des partis pris. Merci beaucoup Clément d'avoir appelé des Mbujimayi. Olivier, vous êtes à Kikwite. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole Olivier.
Oui, voilà, je suis vraiment désolé, mais je dois dire que ce mémorandum est une chose grave. Et l'intervention de l'invité me montre vraiment la gravité de son leur raisonnement. Faire une loi pour Joseph, je pense que c'est vraiment très grave. Et je suis presque sûr que Joseph lui-même n'accepterait pas ça. Parce que ça lui enlève le caractère de garant de l'égalité de tous. Et donc, je pense que nous devons vraiment réfléchir énormément à l'utilisation de notre liberté. Nous ne devons pas nous permettre de faire des propositions qui nous sortent du cadre de la démocratie. Parce que là, nous sommes vraiment en dehors de la démocratie, donc on doit commencer à proposer des choses qui rendent certaines personnes ou qui les placent au-dessus de la mêlée, comme disait quelqu'un que vous connaissez. C'est très très grave. Alors, moi, j'aurais souhaité que des dynamiques comme celle-là, mon prédécesseur vient de parler de flatteurs, c'est le mot que j'avais déjà prévu aussi, mais je ne l'utilise plus. Mais il faudrait que des dynamiques comme celle-là nous aident plutôt à préparer les futurs présidents à connaître leur vrai rôle. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons des présidents qui font n'importe quoi. Et nous avons, avant même qu'on parle de présidence, vous avez remarqué que dans l'agissement des Congolais, l'infraction de trahison de la nation n'existe plus.
Oui.
C'est ainsi que, à l'Est, vous allez voir un rebelle qui revient aujourd'hui, on le reçoit, on lui parle, une semaine après il rentre, il revient un mois après, et on lui dit oui, venez, c'est pour la pacification, revenez. Mais ça c'est très grave. Donc, l'infraction de trahison n'existe plus. Et alors, maintenant, lorsqu'on doit demander aux gens d'accorder des privilèges, au-delà même du mot privilège, à un ancien président, je crois que nous sommes en train de sortir au nom de la prétendue liberté, on est en train de sortir de la démocratie. Je m'excuse, mais je crois que c'est très très grave cette.
Olivier, la thématique telle que soumise au débat aujourd'hui. Va dans le sens que certains observateurs estiment qu'il faudrait engager les poursuites contre les anciens présidents si la justice l'estime nécessaire. Alors une autre opinion pense plutôt que les anciens présidents peuvent jouir des immunités que prévoit la Constitution. Alors vous êtes où? Vous vous situez à
quoi? Non, c'est-à-dire que moi je pense que lorsque l'ancien président cesse d'être président, les textes prévoient déjà le statut de l'ancien président.
Mmh.
Alors, on ne va pas modifier ces mesures parce qu'il y a quelqu'un qu'on voudrait protéger. Non, les textes ont été élaborés par tous et c'était dans l'intérêt de la République. On ne doit pas sortir parce qu'on a des affinités particulières avec X, Y. Nous appliquons les textes lorsque quelqu'un a commis des prévus. Je pense qu'il est tout à fait normal.
Que
ce sont les présidents qui sont les garants de l'égalité de tous devant la loi et du respect des textes et des lois. Donc voilà, je vous dis que c'est très grave.
Merci beaucoup, Olivier. Réaction, M. Jean-Pierre Bouindoua.
Merci beaucoup. J'ai travaillé plus de 10 ans dans la lutte contre la corruption dans ce pays. Je connais effectivement que l'une des raisons de la corruption et de son développement dans notre pays, si on doit parler ici, c'est l'impunité. Ça, je suis conscient. Je suis conscient de ça. Bon, mais j'ai comme l'impression que mes frères qui réagissent, tout en les comprenant très bien, je comprends, puisqu'ils restent dans la raison. Ils restent dans la raison. Si vous voulez que je les dise, que je les cite, la Bible dit « La sagesse venant d'en haut, elle est conciliante, elle est pacifique ». Alors, de ces faits-là, nous sommes dans un cas particulier. Retenez d'abord que la RDC se trouve dans une situation post-conflit. Ça, il faut retenir. Nous sommes dans une situation post-conflit. Et la RDC est dans une situation particulière aujourd'hui. Chaque chef de l'État de ce pays ne sera pas dans les mêmes conditions que les conditions d'aujourd'hui. Les conditions de la RDC sont appelées à évoluer. Elles doivent évoluer dans la maturation, vers la maturation de la démocratie et de la paix. Mais là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes encore sur des fibres tendues et très très fragiles qui peuvent céder à n'importe quel moment. Deuxième chose, je voudrais que les auditeurs sachent que je n'ai pas besoin, Kabila n'a pas besoin de moi pour que je sois son porte-parole. Il a des porte-paroles plus éloquents que moi. Il a des personnes habilitées pour les défendre. Il ne me connaît pas, je n'ai pas besoin qu'il me connaisse pour ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, je l'ai dit avec la grande conviction. Nous, au niveau de la DCID, nous croyons que dans la situation présente, compte tenu des cas qui sont particuliers, compte tenu de la particularité de cette situation, il faut que nous arrivions à...
Mais pourquoi ne pas prendre tous ces plaidoyers et les verser pour examen au niveau du Sénat aujourd'hui, parce que la Chambre haute qui est pratiquement la dernière instance du Parlement, pour apporter quelques touches, quelques corrections, ça pourrait aider. Pas pour tout, on coule sur sur une loi, et puis ça peut être impersonnel, et puis ça sera intemporel, ça pourrait être à tous les niveaux. Je crois que si vous estimez que pour le président actuel, il faut un traitement particulier et des privilèges particuliers, mais si jamais, demain ou après-demain, on a encore d'autres cas plus graves qu'aujourd'hui, bon, je crois que nous vous reviendrez encore pour qu'on propose, pour faire des plaidoyers particuliers par rapport à ça.
Non, le Sénat et l'Assemblée nationale sont saisis de ces mémos ici. Nous l'avons transmis autant au Sénat, à l'Assemblée nationale qu'à toute la classe politique congolaise pour que les uns et les autres réfléchissent là-dessus et réagissent de la manière qu'ils trouveront bonne, qui les conviendront à ce moment-là. Bon, mais cependant, la proposition vaut Son pesador. Mm-hmm. Donc, nous pensons que, effectivement, compte tenu de la situation présente, il faut garantir la sécurité.
Alors, quand vous parlez de la situation actuelle, vous évoquez simplement un pays post-conflit.
Oui. Un pays post-conflit. Regardez qu'aujourd'hui, est-ce que si nous étions dans un pays normal, démocratique comme celui que décrivent mes frères qui interviennent, est-ce que nous serons dans la situation dans laquelle nous serons aujourd'hui par rapport au processus électoral? Vous avez entendu, vous connaissez que les calendriers qui avaient été mis sur pied, il a expiré à la date d'aujourd'hui, et nous devrions être en pleine campagne pour les élections des députés provinciaux. Cela n'a pas eu lieu. On voulait même élire les gouverneurs des nouvelles provinces. Ça n'a pas eu lieu. Ainsi de suite. Vous comprenez que l'on va absolument passer par un consensus. Il faut qu'on arrive à trouver un consensus politique pour arriver à
faire la. On va éclairer un peu la lanterne des auditeurs. La RDC a connu des troubles, comme vous l'avez dit, un pays post-conflit. Nous sommes en 2002 à Sun City. Ouais. Les gens se sont mis d'accord, ouais. N'est-ce pas? Ouais. On dit bon voilà, c'est fini, on arrête tout là, on va mettre tout par écrit, ouais. Et ça accouche d'un plus 4, pas d'une souris, parce qu'il y a eu un plus 4, hein,
oui.
Parce qu'il n'y avait pas de souris là-bas, il y a encore moins de montagnes, il y avait un plus 4.
Oui.
Alors après un plus 4, finalement, ils ont géré 2003 et 2005, nous avons une constitution.
Mm.
Nous avons une constitution, la volonté du peuple, oui. N'est-ce pas? On est allé au référendum. Mm. La constitution dit le mandat du chef de l'État est renouvelable une fois, pas le troisième mandat.
Oui.
Donc je crois qu'à ce niveau, tout le monde était d'accord. C'est que c'est toute la situation que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité,
oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Alors, pourquoi aujourd'hui en faire un problème? Parce que celui qui est en tête a dit qu'il n'a pas l'intention de réviser la Constitution. Il a dit, bon voilà, lui il est prêt d'ailleurs pour organiser l'élection, pour présenter les membres de la majorité et apporter l'opposition et la société civile. Mais voilà, alors donc il n'y a pas de problème, il ne se pose pas lui-même, il n'y a pas de problème.
Nous ne sommes pas en train de proposer quelque chose pour oui. Les glissements. Nous ne sommes pas notre devoir de passer sur les glissements.
Parce qu'il n'y a pas de problème.
Pas. Non,
il n'y aura pas de révision, il n'y aura pas de la situation, elle est normale.
Non, nous ne parlons pas du glissement.
Mm-hmm.
Nous ne disons pas que les chefs de l'État ont l'intention de glisser, ainsi de suite, tout ça. Mais parlons de ce que vous venez de dire tout à l'heure là.
Mm-hmm.
Il dit qu'il a l'intention d'organiser les élections.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui a fait que les élections ne soient pas organisées depuis l'État qu'on a annoncé ce salaire?
La CENI a dit qu'il n'a pas de moyens.
Mais oui, qui devait donner
les moyens? Le gouvernement.
Alors pourquoi le gouvernement n'a pas donné?
Ah, c'est ça la question.
Voilà. Maintenant, compte tenu de ça, nous voyons, moi je peux vous dire que je pense que c'est par mauvaise foi que le gouvernement n'a pas donné de moyens. Ça, je m'assume en lui disant. C'est ce que je pense.
Alors, il faut une loi proposée.
Non, regardez, poursuivons. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant que les élections n'ont pas été financées, le gouvernement a pris le soin de construire les nouvelles hôtels du gouvernement.
Alors, s'il y a mauvaise foi, il y a déjà un tos, il y a des gens qui ont violé la loi.
Oui,
donc c'est qu'il faut sanctionner ces gens, vous voulez de privilégier. Bon, alors, monsieur Wenda, on doit passer de l'autre côté des sandales, parce que c'est l'émission des auditeurs, c'est pas l'émission de l'invité. Et les journalistes. Alors, Bénin, vous êtes à Kinshasa, Jean-Pierre Aïssiro, Bruno Akananga. Bénin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Bénin.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, Bénin.
J'ai attentivement suivi l'invité et tous les intervenants. Je voudrais faire comprendre quelque chose. L'initiative n'est pas sage comme il le prétend. Pour deux raisons. Lorsqu'il parle plus du président actuel, c'est comme s'il a des dossiers où il a fait des problèmes, que le Congolais pourra les venger après le pouvoir et qu'il faut cette structure pour le protéger. Ce qui n'est pas vrai parce que on doit ce n'est pas vérifiable. Et de deux, c'est aussi donner un certain esprit d'impunité. Parce que le mandat d'un chef de l'État, ce n'est pas un mandat où on le laisse faire des dégâts. Donner l'impression comme si on est en face d'un homme fort qu'il faut flatter, qu'il faut lui dire s'il te plaît, veuille quitter le pouvoir, on va te garantir ceci, cela. Ça fait de tous les chefs d'État d'Afrique des dictateurs. Or, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il parle même il parle de la Bible, il a donné une réflexion. Mais la Bible dit, en termes de péché, le salaire qui paie le péché, c'est la mort. C'est-à-dire, la Bible aussi est contre l'impunité. Je voudrais éclairer ma réflexion en disant que les intentions derrière cette initiative ne sont pas claires et soit salissent le président africain, tous, et particulièrement l'actuel président, ou soit aussi
c'est un favoritisme, c'est-à-dire une certaine impunité qu'on veut entretenir. Parce que normalement, si un président a le dossier qui doit être poursuivable, c'est un modèle pour d'autres présidents qui viendront après lui. Voilà, lorsque je gère mon pays ou je suis à la tête de l'État, j'ai des limites. Mais lorsqu'on dit, voilà, nous voulons le président, lorsqu'il évoque le contexte actuel électoral, mais si le gouvernement parle de problèmes financiers, en quoi le manque d'argent pour organiser les élections pourrait aller jusqu'à garantir le président de la protection, il n'est pas poursuivable. Quel est le rapport d'abord? Le problème, c'est que dans ce pays, les gens pensent, comme tous les autres ont dit, qu'on dort quelque part, on réfléchit et on va amener la réflexion au public sans pour autant approfondir la réflexion. Moi, je pense pas que cette initiative est conforme, parce que comme je l'ai dit, soit ça cloue l'actuel président ou tout le président africain, et ça donne d'ailleurs l'image sale des dirigeants africains, que voilà, il y a des Africains pour quitter le pouvoir, il faut qu'ils soient assurés de ses garanties après le pouvoir pour quitter, sinon ils feraient la rébellion, sinon le contexte actuel. Qu'est-ce qui prouve que si cette initiative ne soit pas exécutée, on ne sera pas à paix? La paix, c'est un état d'esprit, la paix, c'est l'organisation, même si actuellement il y a plein de rébellions. Mais il faut seulement structurer l'armée. Tout président qui a une armée forte ne craint aucune rébellion. Voilà ma
Merci beaucoup, Bena. Jean-Pierre, vous êtes ici. Rebonjour, Jean-Pierre.
Bonjour à vous et bonjour à tous mes professeurs.
Quel est votre point de vue, Jean-Pierre?
Oui, d'abord, je suis content que de tels débats soient menés au niveau des paroles aux auditeurs pour que tout le monde puisse dire ce qu'il pense. Je pense que le statut du chef de l'État ne doit pas seulement parler des privilèges. Ça doit aussi parler des limites ou des factions qu'un ancien chef de l'État peut avoir. Et je pense que les personnes qui sont en train de proposer ça, ils sont en train de penser que tous les bavures qui se commettent dans les pays aujourd'hui seront remis à la tête du chef de l'État. Non. Je pense que dans tout ce qu'on aura pour comme loi dans ce statut de chef de l'État, il y aura des choses pour lesquelles le chef de l'État peut être poursuivi et des choses pour lesquelles il ne peut pas être poursuivi. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas dire que tout ce qui a été fait dans son mandat, par ici ou c'est là ou par les militaires, tout il y a eu des niveaux de commandement. C'est qu'il y a des choses pour lesquelles on doit avoir des limites pour les chefs de l'État, mais il y a des choses pour lesquelles lui aussi doit avoir des limites. Mais moi, je proposerais que nous puissions pas accepter qu'un de nos anciens chefs de l'État puisse être poursuivi dans un autre cours qui est celui de notre pays. Parce que si nous commençons à laisser qu'après qu'un président puisse exercer les pouvoirs, qu'un autre cours international puisse poursuivre un de nos anciens présidents de la République, ça sera vraiment un danger pour notre État. Et comme nous sommes en train de fonder la démocratie, comme la démocratie est encore jeune, nous devons faire des bases pour que notre nation devienne forte dans, dans sa démocratie, mais aussi pour que les présidents de notre pays ne puissent pas beaucoup craindre les cours pénales internationaux ou bien les différents cours africains ou internationaux qui peuvent avoir des problèmes tirés après leur pouvoir. Mais qui puissent plutôt savoir que c'est leur pays qui peut les poursuivre et qu'en dehors de leur pays, il n'y a pas une autre personne qui peut les poursuivre par rapport à tout ce qu'ils ont commis pendant qu'ils ont été au pouvoir.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Bruno, vous êtes à Canada. Bonjour Bruno.
Bonjour JR, bonjour à tous les occupants et bonjour aussi à tout le public qui m'accorde le temps et l'invité sur le plateau.
Vous avez la parole après avoir écouté vos prédécesseurs. Donc, quelqu'un a insisté sur les caractères privilèges à accorder dans la loi, mais ne pas se limiter là. Aussi penser à des limites hein, pour éviter de tomber dans des cas d'impunité ou encore des cas de complaisance qu'on peut avoir pour tel ou tel autre, que la loi reste quand même impersonnelle.
D'accord. De prime abord, je commence à vous donner cette vision que les Congolais commencent déjà à comprendre quelque chose. Je suis très fier avec l'initiative et je vote pour cette initiative, mais je pars plus loin pour dire que cette initiative ne va être meilleure que pour le président qui doit être élu pour les séances prochaines, c'est-à-dire pour moi, pour un président qui sera élu en 2016, pas le président actuel. Pourquoi? Parce que le principe tombe, jusque-là, ce n'est pas encore voté. Mais, une chose est certaine, détruire pour ne pas écouter, c'est ne pas écouter en quelque chose. Donc vous ne pouvez pas dire que vous n'adhérez pas à l'initiative pour des réalités que vous avez vécues actuellement. Non, il y a un problème. En cela, moi, je me pose la question. À l'aide de quelles études menait cette initiative est exposée? L'édité doit nous dire d'où vient cette idée, parce que nous avons besoin de la source. Et nous attendons petit à petit vers les élections que tout le peuple congolais est en train d'attendre. Tout le peuple congolais est en train d'attendre. Nous sommes en train de... Nous rêvons les élections, même si le budget pose problème, monsieur le journaliste. Cela étant... Moi, je suis en train de me taper la poitrine pour demander à notre invité qu'il nous donne la source de cette initiative. Cette initiative qui ne peut jamais, cette initiative, voulait dire, qui ne peut jamais concerner l'actuel président et par contre qui doit concerner peut-être le président qui sera élu en 2016.
Voilà, peut-être vous avez pris en cours de cette émission. La première question que j'avais posée à notre invité, c'est de savoir la première motivation de ces mémorandums. Elle avait bien expliqué, je crois qu'il va revenir également sur cela. Alors, Confiance, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Confiance.
Bonjour à tous les occupants de la radio de la paix.
Vous avez la parole, Confiance.
En fait, je veux parler avec la deuxième proposition, qui est celle de la loi qui est plus claire. Et moi, je suis pour que les immunités soient celles qui sont prévues par la loi. Moi, je pense que si aujourd'hui, par mauvaise foi, comme le dit l'invité, et je le prends juste au mot, le gouvernement n'a pas donné le moyen à la CENI pour organiser les élections. C'est-à-dire, nous voulons toujours, chaque fois, revenir dans des cas spéciaux. Pourquoi ce pays doit être géré toujours spécialement, avec des lois spéciales, avec des personnes spéciales, avec des avantages spéciaux, pendant que la loi, elle est très claire et limpide. Cette sagesse n'est pas vraiment sage, excusez-moi le terme, cette sagesse n'est pas vraiment sage. À entendre parler l'invité, c'est comme si d'une manière tacite, il est en train d'attribuer au président de la République certaines violations de la Constitution qu'on voudrait blanchir après le pouvoir. Je crains toujours une chose dans ce pays, c'est même ce que j'ai toujours craint dans ce pays, même si la loi est très claire et limpide, les gens veulent toujours faire un effort de chercher à la contourner. Pourquoi les spécialistes éminents de ce pays veulent toujours faire des gens qui sont spéciaux? Donc c'est ça mon problème. Bon, pour moi, je vais encore souhaiter, pour éviter certains problèmes, qu'on puisse circonscrire la matière pour laquelle on voudrait dédouaner quelqu'un de certaines choses. Quand on parle toujours d'une situation post-électorale, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Ça fait deux mandats maintenant. Est-ce qu'on est toujours post-conflit? C'est pas normal si aujourd'hui, après le 1 plus 4,
après les
le premier mandat, après le deuxième mandat, on nous parle toujours de post-conflit. Cet état post-conflit-là se trouve dans l'esprit de ceux qui dirigent et de ceux qui veulent le maintenir au pouvoir. Cet esprit-là de post-conflit n'existe pas chez nous, la population. On respecte seulement les lois, qu'on organise les élections en bon et due forme, qu'on poursuit même celui qui n'a pas donné le moyen à la CENI d'organiser les élections et que la remise et reprise se fasse d'une manière correcte. Parce qu'il voudrait, selon son idée, il voudrait à ce que nous quittions cette piste d'avoir toujours un État spécial avec des particularités, des choses de l'État qui quitte le pouvoir toujours par les armes, ça ce n'est pas bon. Si vraiment son idée est noble, moi je pense qu'il faudrait, c'est le moment maintenant, de sanctionner même celui qui aura fait en sorte que les élections ne se tiennent pas à bon moment.
Merci beaucoup, Confiance, d'avoir appelé de Kinshasa. Professeur Dalla Akolesi. Professeur, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Bonjour, merci pour la parole. Je voudrais simplement dire que après avoir entendu les uns les autres et l'initiative présentée, je pense, ça c'est mon humble avis, qu'il y a là un manque de respect pour les institutions de notre pays et aussi manque de respect pour la personne du chef de l'État et l'institution présidente de la République. Parce que le président, comme il l'a dit à Kingakati, un jour va dire à ce monsieur qui est devant nous, avec tout le respect que je lui dois, qu'il n'a jamais envoyé pour prendre telle initiative. À mon humble avis, je pense que ce serait prêter des intentions en amont au président de la République et essayer de le flatter comme si on l'aimait pour lui dire que si telle éventualité des refus à la fin du mandat
arriver, eux auraient déjà préparé un terrain ou une issue pour contourner cette difficulté. Je pense que sagesse oblige qu'on ne prenne jamais des initiatives qui, en fait, n'ont pas de problème à résoudre. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation normale. S'il y a une crise pour l'organisation des élections, il y a des voies qui sont prévues pour contourner ces difficultés. Je ne vois pas vraiment pourquoi on prendrait de telles initiatives. N'est-ce pas là encore un abus de liberté d'expression et d'initiative? L'autre fois, sur les antennes de Radio Capi, nous avons dit avec l'honorable qui est l'initiateur du projet de loi sur le référendum, nous avons dit que c'était encore une petite malice. On cherchait à préparer le terrain pour une situation à créer. Donc qu'on laisse aujourd'hui le président de la République consommer son mandat et qu'on lui prête pas des intentions. N'est-ce pas là encore les plaintes que nous formulons en disant qu'il y a des gens qui entourent notre président et qui l'induisent parfois en erreur avec des fausses initiatives. En fait, cette initiative n'apporte rien. Le Sénat est là. La loi est claire dans ce domaine. Je pense qu'on devrait laisser les choses évoluer telles qu'elles sont.
Merci beaucoup, professeur Ndala. 081-890-75 pour votre intervention en direct. Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission au Café Foot chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Café vous donne la parole. Au Café Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci à vous tous qui nous suivez. Bienvenue dans Parole aux auditeurs si vous nous rejoignez. Nous avons dans ce studio Monsieur Jean-Pierre Mouhendoua Ludungay, coordonnateur national de la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement des CUID. Alors, on vient de suivre cette dernière série des auditeurs. Finalement, on se rend compte qu'il y a bon nombre qui critiquent un peu cette initiative. Et d'aucuns vont même plus loin pour dire là, vous tombez quand même sous les coups d'abus d'initiative.
Merci beaucoup, c'est la réaction d'ailleurs à laquelle nous nous attendions. Pourquoi? Puisque nous savons que ce que nous proposons est fort. Ça a besoin d'être digéré, il y a le temps de le digérer. Mais les circonstances, celles qu'elles vont évoluer sur le terrain, vont finalement, je le pense, nous donner raison jour après jour. Vous savez que dans ce pays, nous n'avons jamais connu de réconciliation. Nous n'avons jamais connu de réconciliation puisque nous passons toujours la raison avant. Nous sommes à peu près, nous voulons appliquer la loi. Je suis pour ceux qui veulent appliquer la loi et je les défends. J'ai passé beaucoup d'années dans la société civile comme défenseur des droits de l'homme. Alors, je les défends encore jusqu'à maintenant. Mais le problème, c'est lequel? Regardez, puisque vous étiez en train de retracer et à peu près notre petite historique, oui, après San City 1+4, après 1+4, les élections de 2006, les élections de 2006 ont terminé comment? Il ne faut pas oublier ça. Les élections de 2006 ont terminé par ce que j'appelle la guerre de la Gombe. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Les élections de 2011 ont débouché par la crise d'aujourd'hui, la crise institutionnelle d'aujourd'hui, disons, la crise politique d'aujourd'hui. Alors, nous avons connu après les élections de 2011 deux présidents. Un promulgué par la CENI et un autre qui lui-même s'est autoproclamé, disait que c'est lui qui a été élu. Pourquoi? C'est puisque dans tout cela, il y a un problème de fond. Et même aujourd'hui, on a parlé de Jean-Pierre Bemba qui est en prison. Oui, je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'il soit en prison ou quoi. Bon, peut-être que c'est une bonne chose pour ce qu'il a commis ceci et cela. Mais il n'est pas le seul qui a commis autant de vues. Bon, mais ce qu'il faut, c'est poser les fondements de la paix durable en RDC. C'est poser les fondements de la paix durable. C'est la réconciliation. Il y a des querelles interminables aujourd'hui puisqu'il n'y a pas réconciliation. Nous devons nous réconcilier. Et la réconciliation passe par le pardon. Et ceux qui pensent que je serai envoyé par le président Joseph Kabila. Effectivement, il y a un qui a raison, qui a dit qu'un jour Joseph Kabila me dirait, je ne t'ai jamais envoyé. Il ne m'a pas envoyé, je n'ai pas besoin qu'il m'envoie. Je crois que autant je respecte la réaction des auditeurs, puisque c'est une expression, c'est la conviction qu'ils ont. Autant je respecte ce que j'ai dit, ce que nous avons dit, c'est pas ce que, ce que nous avons dit dans le mémorandum. C'est une structure qui est organisée, qui a des personnes de tout genre, des spécialistes de tout bord, mais qui ont eu le temps d'analyser la situation telle qu'elle est en train d'avancer en RDC. Nous comprenons que derrière les faits, il y a des choses que nous ne voyons pas. Derrière des attitudes, des réactions aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure là, du fait qu'on n'a pas financé les élections. Derrière ça, il y a quelque chose, c'est que nous pensons. Et nous pensons librement, nous nous assumons que ce qu'il faut dans ce pays, maintenant, pour que l'on arrive à l'organisation des élections qui soit transparente, qui soit fiable, dont les résultats ne seront pas contestés, il faut que l'on arrive à passer par ce que nous avons proposé ici. Et alors, oui, les dialogues, un dialogue qui n'est pas le moment de se régler des comptes, qui n'est pas le moment de se partager les pouvoirs, mais qui est le moment de résoudre tous les problèmes qui tiennent la nation en haleine en vue finalement de la paix durable.
Voilà, nous nous excusons auprès des patients qui nous ont appelé de Bukavu. Patients, vous êtes en ligne. Alors dommage, on ne pourra pas vous accorder la parole. Le temps, on est pratiquement à la fin de cette émission, patient. Ne vous découragez pas, donc dommage, on pourrait penser à vous en première ligne. Voilà, nous disons merci à Jean-Pierre Bouindoa, Ludogué, Tour de l'International, la complicité avec laquelle vous avez accepté notre invitation, nous vous avons pris à bien l'aimer. Une fois qu'on merci, vous avez respecté les auditeurs. Merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce programme qui a été réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie Pesabongonda, une émission coordonnée présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Lona Moulamba. À très bientôt pour un autre numéro.